Auditeurs, auditrices, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 5 juin 2023 et comme tous les lundis à 20h, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de On joue la prolongation avec son générique plébiscité par tous, réalisé par Pierre Marcel, que je remercie encore une fois ce soir à mes côtés. Il nous revient, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu en studio. Il est rouge hein, à l'intérieur, ça, il n'y a pas de doute, mais il n'en était pas moins un spectateur attentif au Stade Marien hier, où il assistait au match de l'Union face à Bruges, et il nous parlera sans doute de l'ambiance particulière qui a dû régner au Parc du Den hier. Ravi de te retrouver ce soir, Steve.
Bonjour, bah, je peux aussi te parler de Standard Lagantois. Lagantois Standard, hein, mais...
Oui, un petit peu, pourquoi pas.
Pourquoi et de Ronidel, hein.
on verra ça pour ça, ce sera, si nous reste du temps, on parlera de ça. Avec nous également ce soir, vous connaissez son générique d'introduction. Il va nous apporter comme chaque semaine son sens de l'analyse de ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Et je crois qu'il a des choses à dire encore une fois ce soir. On va en parler donc aussi business avec lui puisqu'il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. C'est bien sûr Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Salut Sam, très 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 bien.
Très très bien. Eh bien, on a bien compris le message. Enfin, de retour en studio... oui, notre Blauenswart préféré, retour dans le studio, en tout cas pour notre émission, puisqu'il est quand même assez souvent là. Il peut être fier de l'état d'esprit de ses joueurs qui ont joué le jeu jusqu'au bout, et même un peu plus que ça. Heureux de t'avoir avec nous dans le studio ce soir, c'est Didier Cohn, bien sûr, salut Didier.
Bonsoir Sam, coucou Alex. Steve, comment ça va?
Eh ben, l'Antwerp te dit merci. Hein.
Moi, certainement pas, mais alors, on y reviendra.
Eh bien, bien sûr, donc ce soir au programme, évidemment, le dénouement incroyable de cette Jupiler Pro League. On va décortiquer cette dernière journée. On fera aussi un bilan du championnat. On parlera aussi un peu de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, dont on connaît désormais le dernier carré. Et enfin, on parlera, s'il nous reste du temps, des matchs européens de la semaine, les deux finales, Fiorentina contre West Ham en Europa Conference League et surtout Manchester City contre l'Inter en finale de Champions League. Ça, ce sera samedi. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce qui a fait le sel de ce week-end, la Jupiler Pro League, bien sûr, dont on va tout de suite donner le coup d'envoi de l'émission, bien évidemment, et on va passer à notre Jupiler Pro League.
Le sel, moi je dirais plutôt le sucre.
Le sucre, le sel, un petit peu de tout. En tout cas, c'était pimenté.
C'est toute l'armoire à épicière.
Voilà, c'est ça.
J'avais envisagé l'acide même.
Pour certains, quelle dernière journée incroyable. On savait avant le coup d'envoi des matchs que trois équipes pouvaient prétendaient encore au titre de champion de Belgique. Elles pouvaient légitimement l'espérer. Et c'était à chaque fois des scénarios qui n'étaient pas trop impossibles, qui pouvaient se produire et qui auraient donné le titre à l'une ou l'autre. On a eu droit à trois équipes virtuellement championnes tout au long de ces 90 minutes et plus. Et à la fin, c'est l'Antwerp qui est championne. Et de quelle manière ? On va un peu parler de tout ça, reprendre les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien. On va faire un petit parallèle entre les deux matchs qui ont bien sûr été donnés, les coups d'envoi des matchs ont été donnés au même moment, et c'est ce qui fait le charme, bien sûr, de cette dernière journée. Du côté, on va commencer au stade Marien. Steve était là, il va pouvoir nous donner un témoignage de première main. Comment a démarré le match, la rencontre? On a senti tout de suite que l'Union, avec son style habituel, a voulu emballer les choses et pouvoir se mettre à l'abri.
Bah, tout d'abord, c'est vrai que si je vais faire un témoignage personnel de l'ambiance qui régnait dans les lieux, c'était une ambiance de fête. Dès le départ, clairement, m'y rendant très souvent, je pense que je n'avais jamais vu le stade dans une telle ébullition. C'est un stade qui, où il y a toujours une belle petite ambiance, hein, mais, ouais. Mais là, on sentait vraiment l'enjeu qui régnait en cette fin d'après-midi. Et alors, ce qui a marqué, moi, ce qui m'a marqué très fort dans les 5-10 premières minutes, c'était qu'on sentait clairement que Bruges n'était pas venu avec des intentions. C'était la question qui se posait. Hein.
Oui.
Dans quel état d'esprit allait se trouver Bruges ? On a eu en tout cas la réponse, en tout cas et ça s'est déroulé comme ça pendant 85 minutes, c'est que Bruges, clairement, était venu pour trottiner. N'était pas du tout, alors volontairement ou pas volontairement, mais il n'était clairement pas venu comme des morts de faim. Il y avait une tendance, l'Union était, on sentait un peu paralysé par l'enjeu, même si ça jouait pas trop mal, mais on ne retrouvait pas non plus la technique et le fond de jeu qu'on pouvait retrouver à certaines parties oui. de saison. Mais Bruges, par contre, clairement, était venu dans un état d'esprit très calme. Les supporters étaient extrêmement sympathiques. Et je vais vous dire que la première fois où j'ai entendu les supporters de Bruges pendant la mi-temps, alors que les supporters de Bruges sont toujours des supporters qui sont extrêmement bruyants, c'est des super supporters, ils viennent toujours en nombre, voilà, c'est un club bien établi avec des très bons supporters, ils ne faisaient absolument pas de bruit, ils ont fait du bruit à un moment en première mi-temps, c'est au moment où Genk a marqué de l'autre côté. Et c'est comme ça d'ailleurs, vu qu'on n'a pas beaucoup de réseaux dans le stade, c'est comme ça que la plupart des supporters, dont moi, ont appris que Genk venait d'ouvrir le score.
Mmh. Alex.
Après, pour rebondir sur ce que dit Steve, il ne faut pas oublier, Bruges, c'est son 52e match officiel cette saison. Ça fait 5 semaines qu'il n'y a plus rien à gagner et certainement plus rien à perdre. Et tu avais une ribambelle de blessés, des matas, des joues de glas, des joueurs clés du noyau qui étaient absents, que tu te retrouves avec un Buchanan dans une position encore la seule qu'il n'a pas joué cette saison, à mon avis. Tu avais des Sabs qui jouaient, tu avais d'autres joueurs dont on n'avait jamais entendu parler, dont le protagoniste du 1-1. Donc c'est très compliqué pour Bruges de se positionner en ce début de match et même avant la rencontre pour venir, mais tu as toujours cette envie de gagner, tu as toujours une prime pour les joueurs, tu as cette envie de gagner, et je suis en fait très content et très fier que Bruges, justement, malgré on connaît les coulisses avec l'Antwerp, que Bruges ait joué le jeu honnêtement.
Oui, c'est ça, je pense que c'est ce que tu veux dire et on est tous d'accord là-dessus. Il n'y avait pas de calcul négatif de la part des Brugeois de se dire on va laisser l'Union marquer. Mais comme tu le dis, après 52 matchs dans la saison que vous n'avez plus rien à gagner, qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a plus d'enjeux tellement, c'est psychologiquement peut-être difficile d'avoir la hargne nécessaire pour faire le match à ce point-là.
Mais c'est surtout un message important et je pense que Didier va me rejoindre là-dessus. Tu ne fausses pas, entre guillemets, c'est le championnat pour le bien du football belge et pour le club aussi, parce que la vérité de hier n'est pas celle de demain. Et si ça se trouve, l'année prochaine, Bruges est dans une situation où l'Antwerp doit battre son concurrent direct pour être champion. Mmh. Et si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après.
Didier.
Moi, il y a un truc qui m'a échappé, c'est en écoutant Steve, il me dit Bruges est venu clairement pour trottiner, en trottinant. Donc je ne mets pas bien les pièces du puzzle ensemble. D'un côté, il y a une équipe qui ne joue pas son jeu habituel.
Oui, mais il faut, comme le dit Alex, il y a aussi toutes les circonstances. C'est-à-dire que vous avez sentiment que...
Ma question, je voulais arriver à une question à Steve, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Union a été battue par une équipe qui trottine. L'Union a été battue par elle-même, en définitive. Parce que pour avoir vu et regardé l'autre match, moi, Genk contre l'Antwerp, qui à mes yeux était le match le plus important, parce que les deux étaient obligés de gagner pour être champion, tandis que l'Union pouvait éventuellement se satisfaire d'un nul, si je ne me trompe pas, eh bien, autant que l'Antwerp perde.
Dans ce cas-là, Genk gagnait.
On est d'accord, pardon, autant pour moi, mais c'était le match.
C'était le match le plus, oui, évidemment, qui allait tout guidé.
Eh bien, à partir de là, je me dis, ok, est-ce que l'Union était battue par elle-même ? Mais je voulais en revenir là-dessus. Sur ce match Genk-Antwerp, on sentait aussi les 22 acteurs paralysés par l'enjeu au début de la partie. Il y avait des erreurs de contrôle, des passes mal ajustées, etc., et qui sont inhérentes à des équipes qui ne sont pas non plus, comme Manchester City ou d'autres, habituées à des grands, grands enjeux. Donc on pourrait comparer les deux, mais si tu me dis que... Moi, je n'ai pas vu le match de Bruges, donc je te fais confiance, ben je vous fais confiance, Alex et toi. Je me dis, s'ils ont trottiné, alors l'Union était battue par qui ?
Alors, je trouve que ta question est excellente, parce qu'en fait, et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, j'ai parlé des 85 minutes de jeu. Mmh. Il y a eu deux matchs, le match pendant 85 minutes ou 86 minutes et les 10 dernières minutes, c'est-à-dire les 4-5 minutes de temps réglementaire plus les ajouts. C'est à ce moment-là que le match a, pour la première fois, complètement basculé. Et je maintiens, en tout cas, que pendant Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup de gens faisaient déjà la fête très tôt, dès la 70e, 80e.
Je l'ai vu sur Facebook.
Sur Facebook, non. Mais dès la 70e, 80e minute, les gens faisaient la fête parce qu'on ne voyait absolument pas, mais absolument pas, comment Bruges allait revenir dans ce match, parce qu'il n'avait, et ça je n'ai pas de réponse, ni la capacité et ou ni la volonté. Je n'ai pas de réponse. De marquer. J'ai envie d'être incisif. Et donc, je comprends ton questionnement face à cette situation assez paradoxale qui est de dire oui, mais s'ils les laissent trottiner, comment ils ont fait pour gagner? C'est parce que cette deuxième partie de match qui s'est jouée en moins de 10 minutes est là où Bruges a complètement changé sa physionomie d'implication dans le match.
Est-ce que tu n'as pas ce mojo à la blessure de Teddy Thomas qui change de camp, que tu te dis, étant l'Union, tu te dis, ok, on a eu une dizaine d'occasions, des très belles occasions, un excellent Mignolet, on va le signaler aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, de cette blessure, ça ne change pas et que l'Union se retrouve moins chasseur mais chassé par sa psychologie, par le club de Bruges, par le résultat de l'autre match?
Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de vérité en ce que tu dis, Steve nous confirmera ça. On voit en première période pas mal de maladresse devant le but, des moments où l'Union doit marquer, peut marquer, et ça ne vient pas. Mais pour autant, ce que Didier demandait, est-ce qu'ils ont été battus par eux-mêmes, ça a manqué, voilà, en première mi-temps, déjà ils auraient peut-être dû convertir au moins une des occasions.
Et c'est vrai, et là je trouve que Didier a tout à fait raison, battus par eux-mêmes parce que ce match devait être plié depuis très longtemps, on ne peut pas se retrouver 1-0 à la 86e minute, ça n'a aucun sens. Je repense à cette action quelques minutes avant où ils sont trois tout seuls avec un défenseur brugeois devant le goal. Il parvient à le mettre à côté. Je n'ai toujours pas compris comment, mais donc, c'est fou. Donc ils ont perdu contre eux-mêmes, à mon sens.
Et ce que disait Thomas, oui, effectivement, il a soufflé tout de suite. On a vu tout de suite qu'il est de retour de blessure.
Ah, c'est Monsieur Grinta. Hein.
Voilà, et que l'état d'esprit était là. Et effectivement, c'est une bonne question, se demander est-ce que cette blessure fait pas tomber la confiance des unionistes en se disant mais maintenant c'est possible de... C'est
attention parce que
j'ai ressenti pendant le match. Moi,
n'avais pas un Lazare Hamani qui était à son niveau d'habitude, je trouve.
Ça fait quelques matchs aussi.
Quelques matchs, c'est les playoffs, mais il est fatigué.
Ils ont joué 57 matchs.
C'est un garçon box-to-box qui donne tout, et il donne tout lors du dernier match des playoffs, et il va tout donner lors du premier match de saison et en Coupe d'Europe en même temps. Et comme tu dis, il a joué plus d'une cinquantaine de matchs. Mais tu as l'absence de Teddy Thomas, tu as l'absence de Sennelinen qui est dans l'ombre de Teddy et de Lazare Hamani, mais qui fait un travail malade.
Ah oui, mais c'est un catalyseur. Hein,
et Boniface, qui n'était clairement pas à 100%. Hein. Mm-hmm. Ça s'est ressenti aussi. Mm-hmm. Il était beaucoup moins... sa présence physique, qui est son atout premier, on sentait qu'il était un tout petit peu plus fragile. Hein,
alors après, je reviendrai à ce que disait encore Steve, maintenant à l'instant. Tu te mets à la place d'une équipe comme Bruges. Qu'est-ce qui fait qu'on dit maintenant on y va alors qu'il reste 5 minutes?
Alors attendez, on va essayer peut-être de conclure d'abord sur la mi-temps, la première mi-temps. On va du côté de Genk. La première mi-temps de Genk, donc toi Didier qui a regardé le match, Genk-Antwerp. Les deux équipes sont bien paralysées, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas atteintes de la pression et fait son travail.
Le défi physique de l'Antwerp, il ne faut plus le décrire, hein, c'est clair que c'est énorme. Il faut lui rendre hommage aussi, Alderweireld, malgré son âge, c'est un fighter, il n'y a rien à faire, il faut lui rendre ça. Et dans le bon esprit, parce que c'est pas, on a déjà vu, comme disait Bologna en son temps dans l'Antwerp, j'ai besoin de standard aussi, j'ai mes 11 salopards. Alderweireld est toujours propre dans sa façon de travailler, alors que parfois je trouve que, comment s'appelle-t-il, le blond, qui n'était pas là hier d'ailleurs, aussi une pierre angulaire de l'Antwerp arrière droit, enfin bref.
De Latte,
oui. C'est assez vicieux comme défenseur, je trouve. L'Antwerp a joué crânement sa chance. Ceci dit, on y reviendra peut-être, on parle toujours de la chance du champion. Pour faire court, je veux dire que l'Antwerp est champion avec deux buts à la 94e et 95e minute. Contre Bruges aussi, ils arrachent la victoire alors qu'elle n'est pas méritée. Dans les arrêts de jeu, elle n'était vraiment pas méritée. Un nul aurait été largement plus équitable, on va dire. Et puis, hier aussi, à Genk, c'est improbable. Leur premier but est improbable, et leur deuxième est très beau, mais il peut encore essayer.
Tout d'abord, juste avant la mi-temps, c'est Genk qui va prendre l'avantage au score.
Une phase magnifique. Une reconversion, une récupération au milieu de terrain, et tout en un temps, c'était juste splendide à voir. Je pense que j'avais oublié que j'étais en Jupiler Pro League quand j'ai vu ce but-là. vraiment, clairement.
Et un but qui a une conséquence très importante, puisqu'au moment de rentrer au vestiaire, nos amis Guingois, avec 48 points à ce moment-là, sont devant. Et ils sont champions. Ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'on revient...
Alors, l'état d'esprit à l'Union, à la mi-temps, parce qu'évidemment, tout le monde... Est...
Donc, tu nous as dit, c'est les supporters brugeois qui ont explosé.
Les supporters brugeois faisaient la fête, clairement. Et l'état d'esprit était une grande confiance, en tout cas, au sein des supporters. Parce que tout le monde a vu que, et de nouveau, je n'ai pas la réponse sur la capacité ou la volonté, mais qu'on sentait que ce match allait tourner pour l'Union. En tout cas, c'était vraiment le sentiment à la mi-temps que, il n'y avait pas encore eu de but, mais ce but allait tomber. Et donc, il fallait qu'on suive encore très très fort ce qui se passait de l'autre côté, dans l'autre match, pour voir si ce résultat devait être confirmé. Ça, c'était l'état d'esprit, si on se replace à la mi-temps.
Mais on n'a même pas besoin, ou on n'a même pas le temps de se demander ce qui se passe en face, puisque le coup d'envoi de la deuxième période est donné, et dans les 40 secondes qui suivent, une superbe action, avec un relais Adingra qui a la balle, qui fait un super relais sur Boniface, qui la lui rend parfaitement, et là, il met une merveille de plat du... Thierry Henry presque, il met la balle, son pied droit bien ouvert, qui va chercher le petit filet, et Mignolet peut rien faire. Et là, ça change tout. C'est l'Union qui mène 1-0, et c'est l'Union qui est championne. C'est l'Union qui sourit, c'est l'Union qui est championne à ce moment-là.
Pour la petite anecdote, c'était beaucoup trop près de la mi-temps. J'étais toujours en face commande, et donc j'ai complètement raté le but, mais peu m'a importé puisque je me suis pris des jets de houblon sur moi d'autres personnes qui n'avaient pas vu non plus, mais qui entendaient les cris. Donc voilà.
C'est un des problèmes de l'Union.
Voir un match pour être champion et louper. Je n'ai jamais compris ça des supporters qui partent 3 minutes avant et qui arrivent 3 minutes après. Je n'ai jamais
ça. C'est le problème de...
Mais à l'Union, pour une bière, tu mets 40 minutes.
Exactement.
Parfois pour
moi, je vais avec ma canette,
Tu la caches mieux que nous.
Et donc, ce but qui permet à l'Union de repasser devant et de croire en ses chances de titre. Et puis, rapidement, de l'autre côté, une quinzaine de minutes plus tard, on égalise. On égalise côté de l'Antwerp. Didier, cette égalisation,
une passe mal ajustée vers le gardien et évidemment, j'ai oublié c'est Janssen, je crois, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus, je pense que c'est lui. Enfin bref, qui intercepte et qui après, il a eu beaucoup de chance parce que son tir est dévié par le défenseur et donc Van de Voort est pris presque à contre-pied, mais c'est au premier poteau.
C'était Kerk, pardon.
Ouais. Je ne peux pas dire que c'était immérité, très honnêtement, moi qui ne suis pas un supporter de l'Antwerp, parce que je ne trouve pas leur jeu chatoyant. Mais par contre, ils sont extrêmement efficaces, extrêmement rapides en récupération et en reconversion. Mais sur le match que j'ai vu hier et sur toute la saison, c'est clair que les deux équipes des trois qui proposaient le plus chouette football, le football le plus positif, je dirais, c'est l'Union et c'était Genk. Après, c'est un beau champion aussi.
Tout à fait.
Les points, c'est les points, il faut être honnête.
Et donc ce but...
Et puis, tu ne fais pas doubler coupe championnat juste sur une coïncidence non plus.
Non, ça c'est vrai.
Il faut rester honnête.
Tu fais sur une super bonne organisation à l'image de Van Bommel, joueur.
Tout à fait.
Des joueurs souvent très jeunes. Les Vermeeren, les Van den Bos, etc., qui ont joué, les Mouya, tout ce type de joueurs dont tu n'avais jamais entendu parler il y a un an.
C'est une pépite, ça.
Oui, d'accord, mais il a osé le lancer, et c'est ce flegme hollandais, on en a déjà parlé, qui ose justement donner sa chance à un jeune, et il le prouve, et l'Antwerp...
C'est vrai, mais tu parlais du hollandais, je suis d'accord avec toi, mais généralement, moi, entraîneur hollandais rime avec football champagne, football porté vers l'avant, et Van Bommel, j'ai l'impression que c'est un Mourinho des temps nouveaux, c'est-à-dire tout axé sur la défense et puis sur la reconversion. Il a les joueurs pour, on est d'accord, il faut jouer avec ses armes, mais c'est pas spécialement chatoyant, alors que sur le papier, il a quand même des joueurs pour offrir aussi un petit peu plus. Il va en encaisser davantage, on est d'accord, mais je trouve que c'est négatif quand on fait du foot de dire bon ben le principal c'est de ne pas encaisser. T'as toujours tendance même psychologiquement à jouer avec le frein à main, sauf quand c'est nécessaire de pousser, et ça ils sont capables de le faire. Et donc voilà, j'aurais souhaité un peu plus d'audace quand on avait l'entraîneur hollandais il y a un an d'ici à Bruges. Ben on n'a peut-être pas pris beaucoup de points, mais encore qu'il a été champion.
C'était la même chose, hein.
Oui, ouais. Mais il avait un football plus offensif.
Ouais, mais c'est vraiment
globalement.
C'est une équipe qui est vraiment basée. Pour faire une petite parenthèse sur l'Antwerp, c'est vraiment une équipe bien basée dans tout secteur de jeu, hein, parce qu'ils ont une défense canon, mais ils ont aussi cette attaque avec Janssen qui, je sais pas combien de goals il a marqué.
Janssen.
C'est vrai.
Redoutablement
efficace.
Hein. Et ce but donc ne change rien sur l'issue du championnat à ce moment-là, puisque l'Union est toujours en tête, mais en revanche, les places s'inversent entre Genk et l'Antwerp. Et bah, du coup, Genk se retrouve avec l'obligation, s'il veut poursuivre sa voie, son espoir, s'il veut conserver l'espoir d'être champion, et bah, de marquer, et ils vont pousser.
Et là, petit froid à l'Union.
J'imagine.
Des deux côtés, tant Union que Bruges, parce que Union s'entend le souffle. Évidemment, de l'Antwerp qui, sachant pas exactement ce qui se passe, mais si dit, l'Antwerp est dans une dynamique positive. Donc, ils ont beau gagner, ils craignent.
Ce qui se passe, ils ont tous leur GSM et ils avaient tous.
T'as pas de réseau, hein.
Tu n'as pas de réseau.
T'as pas beaucoup de réseau.
Il n'y a pas de 4G là-bas?
En fait, elle est complètement saturée.
Ouais.
Complètement saturée. Comme au Roi Baudouin. Sauf qu'au Roi Baudouin, il n'y a pas 8000 personnes, il y en a 50 000.
On est bien en Belgique alors.
Oui, c'est un problème belgo-belge. J'étais à l'Antwerp la semaine dernière, c'était exactement la même chose.
Et les supporters brugeois aussi craignaient, puisqu'ils sentaient la même chose. Et donc, les supporters brugeois aussi ont calmé.
Donc là, les décibels doivent descendre un petit peu dans le stade.
Complètement.
Côté Genk, on vient de se faire égaliser, comme je l'ai dit, voilà, on est obligé maintenant.
Mais avant ça, il faut revenir sur un fait de match extrêmement important, c'est la polémique du péno. Parce qu'il y a eu deux polémiques péno, et c'est 1-0 pour Genk qui peut se permettre à ce moment-là de faire le break. Encore faut-il la mettre au fond, on est bien d'accord.
Oui, il y a un McKenzie qui se fait retenir plus que retenir sur un corner.
Je ne comprends pas, et quand tu vois les images... C'est sous les yeux de l'arbitre, hein. Il n'y a personne entre l'arbitre et les joueurs. Et je veux dire, il se fait plaquer comme au rugby. Clairement, il le pousse, il tombe avec. Le VAR n'a même pas été checké. Je veux dire, je ne comprends pas. Mais après, voilà, on va pas refaire le match, le champion est le champion. Et puis, il y a une autre phase, un peu plus tard, sur Pencil, qui était intenable hier. Mais à la limite, il serait tombé un peu moins théâtralement.
C'est souvent le problème des joueurs qui amplifient, même quand il y a une petite faute. Ouais. Alors on pourrait s'attendre. Ils ont dû regarder peut-être au VAR, mais c'est surtout sur le corner.
Le corner n'est pas encore tiré, donc les joueurs s'avancent, tu vois, pour anticiper le corner. Et là, le joueur est clairement retenu, plaqué au sol dans le rectangle, sous les yeux de l'arbitre. C'est inimaginable. Alors, ou bien on ne siffle jamais ça, mais dans aucun match, et alors tout le monde, on ne dit rien. Ou bien, mais on a déjà vu des matchs où ça se sifflait.
Mais ce qui est effectivement frustrant, c'est de se dire que nous, on l'a vu et qu'on se demande pourquoi le VAR n'est pas intervenu.
L'arbitre, on va dire qu'il était focus.
Oui, l'arbitre, il peut faire. D'ailleurs, le VAR est là pour ça. On ne préjuge pas de l'honnêteté de l'arbitre. On n'a pas de raison de penser qu'il est malhonnête. On peut penser juste qu'il y a 22 joueurs sur la pelouse. Et lui, il regarde l'action. Mais effectivement, on peut s'étonner que le VAR n'intervienne pas, mais ça n'empêche pas Genk de repartir. Et Genk va reprendre l'avantage à la 75e minute. Ils doivent gagner.
Et c'est pour ça que c'était le match le plus intéressant. C'est que les deux avaient l'obligation de gagner.
Oui, absolument.
Et comme un symbole, c'est Heinen qui marque, mais c'est comme un symbole. Il s'est arraché là par contre. Il a fait il a donné des assists magnifiques tout au long de la saison. Mais là, Trésor en ajoute une à sa collection, la 24e. En sautant, il fait une remise de la tête. Il se dépouille pour la remettre dans l'axe. Et au but côté de Genk, c'est toujours bon. C'est même encore meilleur pour l'Union à ce moment-là. J'imagine que dans le stade, le deuxième but a dû être célébré.
Fêté au moins autant que le premier de Genk, parce que là, on avance dans le temps.
Et voilà,
on avance dans le temps, et donc ça veut dire que l'Union continue à gagner, l'Antwerp doit en mettre deux, les supporters brugeois sont hyper heureux aussi. Donc tout le monde est parfaitement heureux, et commence alors après, je ne sais plus, 20 minutes, à mon avis, si mes souvenirs sont bons, 20 minutes plus ou moins de début de célébration.
Et voilà,
au point où, à un certain moment, il y a, au bord du terrain, près de Gerhards, il commence à mettre des barres. Vraiment, hein.
Ah ouais, d'accord.
Il commence à mettre des pompes.
Ah oui, l'hélicoptère.
Il commence à mettre des, il commence à mettre des verres. On voit les traiteurs, enfin tout commence à se mettre en place.
Et t'as l'hélicoptère qui commence à circuler au-dessus de forêt avec le trophée.
Oui, puisqu'il y a eu la seule solution qui avait été trouvée pour pouvoir convoyer le trophée dans un stade ou dans un autre, c'était un hélicoptère qui attendait, qui faisait des tours pour pouvoir livrer.
Après, j'ai lu, il y a des supporters de l'Union, pour eux, le pire moment, c'est cette égalisation de Bruges et entendre l'hélicoptère s'éloigner. Pour prendre la direction de Genk, qui après a encore pris une autre direction. Mais...
Pour l'hélico, c'est une horreur, parce qu'en 3 minutes, ils ont dû être à Genk.
à Anvers, justement, non. La chance, entre guillemets, pour l'organisation, c'est qu'ils devaient aller à Anvers.
Exact.
Et donc là, du côté, on l'a dit, Teddy Thomas, à ce moment-là, vient de sortir, il a eu un choc, et lui qui a été blessé, ça a dû entamer son capital physique, il est remplacé. Et les remplacements, il va y en avoir aussi du côté brugeois, dont Steve nous rappelle qu'à ce moment-là, ils n'ont quasiment pas eu d'occasion. Ils ont été ils ont joué le jeu parce qu'ils ont été présents, ils ont été là sur le terrain, mais ils n'ont pas proposé grand-chose et ils n'ont pas été une grande menace pour l'Union, qui s'achemine, qui court gentiment vers un titre de champion.
Ah oui, non. En fait, ces changements sont passés un peu dans l'anecdote. Hein.
Et voilà.
Je dois avouer que j'ai appris le nom de celui qui a changé à partir du moment où il y a eu le goal.
Shion Homa. Qui entre à la 88e minute.
Retiens son nom, ce sera utile pour l'année prochaine.
Shion Homa qui entre à la 88e minute pour marquer à la 89e minute. Et là, c'est assez incompréhensible de prendre un but à la dernière minute face à une équipe qui n'a rien à gagner. Alors, il y a toujours, effectivement... parce que les joueurs qui étaient sur le terrain, on ne peut pas dire qu'ils sont menés déjà depuis 40 et quelques minutes, donc il n'y a pas une réaction qui est épidermique qui est tout de suite. Là, c'est effectivement le facteur X. C'est un jeune joueur qui ne joue quasiment jamais, qui vient d'entrer et qui doit être galvanisé, qui doit avoir l'adrénaline qui est montée très très fort. Et dans une défense hyper attentiste hein, de l'Union, il y a une remise d'Hendry sur un ballon aérien, et puis lui qui est tout petit entre deux ou trois défenseurs centraux unionistes, il va réussir à pousser le ballon au fond des filets. T'as pu voir les choses arriver ou pas du tout
Pas du tout. Je peux pas parler pour tout un stade.
Que toi, t'es bien capable.
C'est pas ici que j'essaie d'avoir cette prétention, mais tu n'as pas tort, Didier. En tout cas, tout le monde autour de moi, en fait, c'est tombé, tout le monde est en train de parler. Comme je disais, tout le monde faisait des selfies, et peut-être trop vite, hein. Peut-être beaucoup trop vite, tout le monde était là. Le public qui est dans la tribune où j'étais, qui est un public qui est normalement assis, depuis la 70e, tout le monde était debout.
D'accord.
Ça s'apprêtait. Et alors, quand le goal est arrivé, la question qui s'est posée, les gens autour de moi m'ont dit mais pourquoi ils font ça?
Pourquoi?
En fait, ils voulaient marquer. La question que mon voisin m'a posée, mais en fait, ils voulaient marquer. Parce qu'on n'avait pas compris ça. On n'avait pas compris que c'était un des éléments du match. Et je le dis, et je fais le lien avec ce que je disais depuis le début. Quand je me suis rendu compte entre la 5e et 10e minute, en tout cas la lecture du match était clairement Bruges est venu en victime consentante.
D'accord.
On l'a peut-être pensé trop vite, mais c'était vraiment l'état d'esprit qui est resté depuis le début du match jusque cette minute-là. Et puis à ce moment-là, quand ils ont marqué, ils ont dit mais en fait, ils voulaient vraiment. En fait, ils avaient une volonté de jouer, de marquer.
Mais tu as un paradoxe qui est quand même incroyable, c'est l'Union est connue pour sa défense, pour les tours. Burgess, Candous, même si qui n'était pas la même Ashida, il fait quand même plus d'un mètre 90 aussi. Et là, à la dernière minute du dernier match du titre, tu te prends un but d'un joueur qui fait 1m70, même pas. Une balle qui est remise, un centre qui arrive, Dieu sait comment, au deuxième piquet, qui est remise dans l'axe, et le joueur le plus petit du terrain réussit à la mettre dedans.
Est-ce que c'est pas un peu c'est un fameux symbole?
Peut-être.
De l'absence de maturité de cette équipe.
Mais pourtant, on s'était dit toute la saison qu'elle avait acquis une maturité incroyable par rapport à l'an passé. Ils avaient appris de leurs erreurs.
Oui et non, parce que tu as Rangers, le premier match en Champions League, enfin le deuxième match en Champions League, où tu mènes 2-0, où tu t'inclines 3-0 à Glasgow avec une erreur de Maurice qui n'en fait jamais, qui n'en a d'ailleurs plus faite de toute la saison. tu as cette demi-finale de coupe où tu perds au tir au but face aux jeunes de l'Antwerp, j'ai envie de dire, et tu as cette apothéose négative où tu perds le titre et tu te retrouves avec rien de tangible. Ouais,
est-ce que les unionistes, pour rejoindre ce que tu dis, Didier, n'ont pas trop attaqué et ne se sont pas découverts inutilement? Alors on comprend bien qu'à 1-0, on sait que c'est pas idéal, il peut se passer ce qui d'ailleurs s'est passé, mais est-ce qu'il n'avait c'était pas mieux, ou est-ce qu'il pouvait plutôt rester tranquillement en défense, ou un peu plus tranquillement?
En tout cas, je n'ai évidemment pas revu le match, à ce moment-là, la question ne se pose pas tellement parce que Bruges n'est pas dangereux.
Et
l'Union ne se met pas à 11 à attaquer.
Pas comme
ils font pas un pressing extrêmement haut non plus. Ils sont organisés.
Tu sais que l'adversaire va avoir une occasion. C'est comme exactement la même chose qu'à l'Antwerp Union la semaine dernière.
Exact. Puertas.
Cameron tire de n'importe où, la balle est déviée, elle fonce dans le
goal le plus moche du championnat.
Tu n'es jamais à l'abri de ça. Ouais. Et donc, à la limite, j'ai envie de dire que si pour les joueurs le ressenti était le même que pour les spectateurs, l'Union a dû savoir sentir que Bruges était venu juste faire acte de présence. Alors pourquoi ne pas enfoncer le clou en première mi-temps avec 2-0 si après tu te fais rejoindre, alors t'es vraiment...
Comme vous dites, vous avez raison, il y a toujours un corner à la 89e.
C'est ça.
Bien sûr.
Qui sort de nulle part et qui a une occasion franche de but.
Mais c'est ce que tu dis est intéressant sur le fait qu'ils aient...
C'est ce que l'Antwerp a fait contre Bruges, c'est là-dessus qu'ils ont gagné aussi.
C'est intéressant le fait que tu dises qu'ils ont commencé à installer des choses autour du terrain. Je pense que ça peut participer à une déconcentration des joueurs qui se disent que c'est déjà acquis. Moi, j'ai souvenir d'avoir été... il y a bien longtemps de ça, au Parc des Princes pour un France-Israël qui était qualificatif pour la Coupe du Monde, et à la mi-temps, il jouait Joe Dassin, l'Amérique, c'était la Coupe du Monde 94, et je peux vous assurer que les joueurs l'ont dit après, on entendait ça ils ont perdu 3-2, les bouteilles de champagne étaient déjà prêtes, ils entendaient la musique dans le vestiaire, donc je me dis que les joueurs dans un stade marien où c'est petit, s'ils commencent à voir effectivement qu'on s'affaire pour pouvoir célébrer déjà le titre, c'est ça, une petite seconde de déconcentration, parce que c'est quand même étonnant qu'ils aient cédé comme ça face à une équipe qui n'avait pas proposé grand-chose depuis le début de la partie.
C'est pas l'égalisation le problème, c'est le problème qu'après ça, ils n'ont plus une seule occasion non plus.
Après tout s'est enchaîné très vite, c'est-à-dire ils ont mis tout le monde devant, et sur la première contre-attaque, tu as eu deux Brugeois qui se retrouvaient tout seuls devant Maurice.
Voilà,
tu as eu deux entrées aussi de Sykes, par exemple, qui pour justement tenter de jouer la taille. Et d'avoir un corner.
Et là, j'ai pas compris.
Tu es obligé de faire entrer des attaquants et des joueurs qui ont un sens du but.
Oui, je suis d'accord, mais Everteson, il ne va rien te faire sur une phase arrêtée. Il ne va rien te faire. C'est le genre de match, c'est le genre de fin où tu lances un long ballon et t'espères qu'il arrive dans un bon pied au bon endroit pour essayer d'en mettre un.
Tu espères que Everteson va s'appeler notre ami Toby.
On ne sait jamais tout ce qui peut arriver, mais. Pour rebondir sur ce que disait Sam, les joueurs sont briefés à l'avance de qu'est-ce qui va se passer dans plusieurs cas de figure. Donc, le fait qu'on commence à installer des pompes à bière ou qu'on commence à installer quoi que ce soit, c'est dans tous les stades, lors d'une célébration potentielle, que ça arrive. Et ils sont au courant de ce qui va se passer, de ce qu'ils doivent faire, d'où ils doivent aller, de ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi. Donc, pour moi, ça ne joue pas tellement. Psychologiquement, tu rates toutes tes occasions et tu commences à paniquer déjà dans un match de stress. Et on parlait de Manchester City là tout à l'heure. Les joueurs, ils ont le même stress à Manchester City, sauf qu'ils sont tellement, rodés à gérer ce stress de un, et d'autre part, Kevin De Bruyne, il va te faire une extérieur du droit, qu'il soit stressé ou qu'il soit pas stressé.
C'est ça, ça a moins de prise sur... C'est ça. Techniquement, la technique reste bien en place chez certains joueurs, et chez d'autres, ça balbutie un petit peu plus.
C'est le positionnement.
Alors là, puisque tu en parles, Kevin, c'est Kevin, tu connais mon petit Kevin. Alors, si jamais... Samedi, il gagne la Champions League et qui n'est pas ballon d'or.
On en parle tout à l'heure, on finit avec le football belge. Ce but, à l'Union pour Bruges va donc commencer à faire tourner les choses, puisque à ce moment-là, je vous le rappelle, de l'autre côté, c'est Genk qui mène 2-1. Et Genk devient à ce moment-là virtuellement champion de Belgique, une place qu'ils pouvaient espérer. Mais là, le scénario pour eux, j'imagine les supporters dans le stade se dire « là, les étoiles s'alignent vraiment et c'est en train de se passer ». Les choses se passent même tellement bien que, comme vous l'avez dit, malheureusement pour l'Union, ils prennent un but quasiment juste derrière, puisqu'il y a une contre-attaque et Noah Leng qui a fait du Noah Leng pendant une bonne partie du match, qui a excité, ou en tout cas énervé, agacé le public, qu'il a conspué. Eh bien, il est sorti, il a marqué son but, retiré son maillot, l'a montré que c'était bien lui, Noah Leng, qui avait marqué et crucifié d'une certaine manière l'Union.
Ben, je vais me faire le porte-parole de Blaise, qui était avec moi ce matin dans la matinale, et qui me disait, j'ai rien compris, j'étais au Stade Marien hier, parce qu'il y était, et il dit, j'ai pas compris pourquoi le public a sifflé Noah Leng du début à la fin de la partie.
Non, non, bah, non bah, moi, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ça s'est pas passé comme ça, c'est que Noah Leng a fait comme dit Sam du Noah Leng, c'est-à-dire qu'à la première altercation un peu physique au premier duel, il est venu, il a commencé à se mettre le nez contre le nez face à un joueur, et il vient avec cette air toujours menaçant, suffisant et de sale gamin. Et donc, évidemment, c'est vraiment... voilà, avec le passif, etc. Moi, j'ai jamais vu, je pense, un match où Noah Leng ne se faisait pas huer à la fin du match pour son comportement. Hein.
C'est vrai.
Pas une seule fois. Et bon, moi, je garde...
Sauf à Bruges, hein, quand il joue à Bruges.
Moi, je garde toujours un problème avec lui et avec le club de Bruges, parce que je n'ai jamais digéré l'année passée comment est-ce que le club de Bruges a complètement essayé de mettre sous le tapis ses excès en termes de racisme. Donc, moi, c'est vrai que, et je pense qu'il y a quand même pas mal de supporters aussi qui n'ont pas oublié cet élément-là. Et donc, c'est pas qu'il n'a pas été hué pour ça, mais évidemment, à la première altercation où il fait son Noah Leng, c'est fini. Et c'est en effet, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et donc, il marque, et à ce moment-là, côté Genkwa, surtout côté anversois, on comprend que l'Union n'a plus rien, que Genk est champion, mais qu'un seul but côté anversois permettrait de décrocher le titre. Et là, c'est l'apothéose, comme vous l'avez dit, qui va se produire. Voilà, les anversois attaquent. C'est Yelle Bataille qui fait une très fine talonnade. Et là, comme un symbole, une frappe magnifique, majestueuse, magistrale, tout ce qu'on veut.
À la compagnie.
Oui, c'est ça, exactement. À la compagnie, un missile en pleine lucarne.
Oui. Encore plus belle.
Et encore plus belle parce qu'elle donne le titre à la 94e minute.
Celle de compagnie donne le titre aussi, attention. Ouais. Mais ici, elle va en pleine lucarne.
Elle est vraiment belle.
C'était un elle missile. Est exceptionnelle.
Ici, Toby peut encore le faire 40 fois. Je ne suis pas sûr qu'elle aille encore dedans. Ah. Et donc, faire ça à ce
compagnie
moment-là...
Compagnie, c'était plus loin aussi. Hein. C'était 25 ou 30 mètres quasiment.
Oui, d'office,
hein.
Mais...
J'ai une petite question à Didier. Quand il y a eu cette égalisation brugeoise, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'atmosphère sur le terrain à Genk Antwerp ?
Eh bien, à Genk Antwerp, quand Bruges a marqué, moi, je n'ai pas ressenti... Alors, il y a eu... Parce que même Marc Delire et Philippe Albert, qui étaient les commentateurs RTB, hier, oui, ils ne comprenaient pas parce qu'on entendait un énorme brouhaha dans la foule. Donc ils se sont dit, ils ont même appelé leur collègue, dit s'il se passe quelque chose aux Mariens. Non, pas du tout, c'était une fake news qui avait filtré. Et donc, mais c'est incroyable. Alors je me suis dit, c'est quand même dingue. T'imagines dans un stade où... T'entendais, mais c'est pas juste un petit clan du stade, c'était tout le stade.
Non, mais il suffit
où est-ce qu'ils ont été chercher la fake news et comment est-ce qu'ils se
l'assument il suffit que 10 personnes lancent quelque chose
et tout le monde a live score avec les pushs instantanées.
Oui, mais le problème, c'est d'y avoir accès quand t'es dans le stade.
Mais à quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes de ce côté-là.
Mais live score, c'est officiel, donc ils ne peuvent pas envoyer de fake news.
C'est pas fake news. Live score te dit ça, mais maintenant, depuis quelques années, il y a quelque chose comme la VAR. Et parfois, tu as un but qui est annulé 5 minutes après.
Mais là, il n'y avait rien.
Et donc, tu as tout le monde qui est un tout petit peu en sursis, on va dire, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et tu es entre... Moi, je reste toujours relativement calme parce que je sais que ça peut arriver, mais d'autres personnes, pas nécessairement. Et célèbrent donc un but qui est un peu à la Hambourg.
T'es dans l'émotion, la tension. Hein, donc, chaque petite étincelle peut te faire déclencher sans même que tu comprennes ni n'aies le temps de pouvoir investiguer sur ce qui se passait.
Par contre, je voudrais quand même relever quelque chose pour ce que j'en ai vu, moi, et entendu forcément, c'est plutôt à ça que je fais référence maintenant, c'est que pour un match avec un tel enjeu, à la fois sur le terrain, c'était physique, mais c'était pas sale, c'était pas des voyous, franchement, et dans le stade aussi. Parce que finalement, il y avait une des deux équipes qui aurait pu être championne et qu'il y en a une des deux qui a été championne et qui n'était pas celle qu'on pensait. Eh bien, il n'y a pas eu d'acrimonie. J'ai l'impression que tout le monde était content parce que tout le monde a trouvé son compte à la fois dans l'ascenseur émotionnel, à la fois dans le foot proposé, toute tense, pression mise à part. C'était quand même un beau match de football. On ne peut pas non plus dire que c'était n'importe quoi. Et je n'ai pas senti de haine ou même de... Comment dirais-je ? Un autre mot moins fort que la haine, évidemment. Mais mais de...
D'animosité.
D'animosité, exactement. Dans le stade, il n'y a pas eu de sifflet au moment où, où l'Antwerp a marqué son but. Bon, mais les gens étaient peut-être probablement incrédules, mais il n'y a pas eu ce mouvement de « c'est pas juste, c'est machin, ceci ». Et aucun des joueurs, que ce soit d'un côté... Enfin, tu vas me dire à l'Antwerp, il n'y avait pas de raison, mais à Genk, il a dit « oui, mais
c'est vrai
pas
que
de chance ».
Genk, bon, ils se sont sentis un peu lésés à cause de ces pénalties, mais c'est vrai que sur dans le déroulé du match, j'imagine que...
Le public a été d'un fair play.
Ils ont dû penser qu'ils seraient sans doute pas champions avant le début du match et que ce serait sans doute pas... c'était sans doute pas à l'Antwerp qu'ils pensaient, mais ils pensaient sans doute qu'ils allaient être précédés par l'Union et qu'ils allaient faire le boulot de toute façon pour battre l'Antwerp et qu'ils allaient le faire. Mais ils savaient que de l'autre côté, qu'ils étaient tributaires du résultat de l'autre match.
Ils ont été champions à deux moments virtuellement. Ouais.
Je partage pas ton analyse. Non. Moi, je pense pas qu'ils soient montés sur le terrain en disant on sera probablement pas champion.
Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est
qu'ils disent on va gagner. Si on gagne, on est champion.
Oui, mais au moment où l'Antwerp marque, ils savent depuis le début de la mi-temps qu'ils ont fait le boulot, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais l'Union a marqué, donc de toute façon, ils peuvent en marquer 3, 5, 10, ça changera rien.
Ils deviennent supporters de Bruges.
mais donc il y a l'égalisation brugeoise qui intervient, et là, ça leur tombe un peu dessus, et bon, et voilà.
Le scénario.
Non, mais ils sont champions à ce moment-là.
Ils sont champions, oui.
Ils sont champions à ce moment-là.
Je veux dire, ils se font retirer l'os de la bouche, enfin, on leur retire ça, mais ça n'a duré que quelques minutes. Je sais pas si c'est moins douloureux ou plus douloureux.
C'est même quelques secondes avant que tout le monde s'en aperçoive, mais tu dois te dire à ce moment-là, tout le monde est dans un ascenseur émotionnel, tout le monde suit ce qui se passe, etc. Tu es vidé, physiquement et psychologiquement. Ah ouais. T'as même pas la force de réagir, étant Genk à ce moment-là, étant au tapis comme l'Union. Tu sais plus réagir.
Je pense qu'à 5 minutes de la fin, tu as un truc, un ascenseur émotionnel, comme tu dis. Tu sais que ta mission, quoi qu'il arrive, c'est de gagner. Que ce soit l'Antwerp ou que ce soit Bruges. Donc, il n'y a rien qui change après le début du match.
Attention, parce qu'ici, on est dans la théorie, dans la pratique. Ben oui. Ça tombe quasiment, il y a quelques secondes.
Je suis d'accord, mais
entre les trucs qui se passent.
Je serais d'accord avec l'analyse. Si c'était 2-0 à l'Union, ou 3-0, ou 3-1, alors à ce moment-là, on dit OK, on peut. Mais là, quoi qu'il arrive, tu dois gagner. Tu ne sais pas comment. Le match n'est pas plié de l'autre côté, donc tu sais que tu peux encore être champion.
C'est ça, il y a peut-être ça aussi. C'est-à-dire que.
Pour te reposer ma question d'une autre façon, est-ce que quand Bruges a marqué, est-ce que l'Antwerp d'un coup a été galvanisé Parce que je n'ai pas pu le voir.
Oui. Mais j'ai senti, en fait, l'Antwerp, pour être honnête, mais ils ont une équipe taillée pour ça, c'est une équipe qui ne renonce jamais. Tu les vois jamais la tête baissée. Et voilà. Donc ils ont toujours joué leur jeu. Ils ne se sont jamais reniés avec tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire l'attentisme et d'attendre une balle perdu et de repartir en reconversion ultra rapide. Donc, ils ont joué leur jeu. Je ne peux pas dire qu'ils aient joué... ils ont fait l'Antwerp, quoi. Et ils ont été les seuls. Parce que Genk a joué... Tu sentais Genk plus pris par l'enjeu, j'ai envie de dire. Mais c'est naturel, puisque eux, ils sont naturellement poussés vers l'avant. Et ils n'allaient pas vers l'avant comme une furia, tu vois.
Mais ici, l'Antwerp savait à la 89e minute, donc il restait encore 5-6 minutes pour marquer. Il savait que c'était 1-1 à l'Union. Voilà. Donc, il savait qu'avec un point...
Il savait qu'il devait marquer. Quoi.
Donc là, tu joues le tout pour le tout. Donc tout les deux buts de Bruges ensuite, c'est anecdotique. C'est plus embêtant pour l'Union, et on va peut-être y venir après, parce que l'Union perd sa deuxième place aussi, du coup.
Ouais. Ils ont tout perdu.
Ouais, on va faire justement le bilan de ça. Avant ça, peut-être qu'on va dresser une statue quand même à Toby Alderweireld, qui... Quel beau retour d'un diable, un ancien diable,
Ça doit vraiment être souligné, parce que souvent les retours,
c'est
émotionnel pour le joueur et le public. C'est souvent ça le retour, et c'est rare, il y a eu quelques exemples, mais la plupart des retours, c'est des gens qui ne sont pas au summum de leur carrière, donc ils se disent qu'ils vont performer dans le championnat belge, mais tout de même, ils ont toujours du mal physiquement, enfin, c'est plus les mêmes joueurs que les joueurs qu'on a adulés quand ils étaient là ou quand ils jouaient à l'étranger. Et là, chapeau, parce que c'est un très très beau retour en termes physiques, en termes d'implication pour le club et tout ce qui symbolise autour.
Et puis au-delà de ce but donc, qui donne le titre, il a été le capitaine de la défense, de la meilleure défense du championnat, et assez largement on a souligné le travail de Buté, qui est le meilleur gardien du championnat, mais c'est vrai que la colonne vertébrale Buté, Alderweireld devant lui, ça partie. Ça a
et
été
de l'âtre
le...
aussi, hein, il faut lui rendre ça. Richie Moi, je n'aime pas ce joueur parce que je trouve qu'il est assez dur et parfois très, très limite. Mais c'est un piston solide. Hein. On ne peut pas lui enlever ses qualités, ça, c'est clair.
Et alors, Alex, oui, on parlait des implications du début de Bruges en fin de match qui ne change plus rien pour l'attribution du titre. En revanche, ça change quelque chose pour le classement final puisque l'Union se retrouve maintenant troisième et non plus deuxième. Et avec troisième, ben, ce n'est pas la même mayonnaise l'année prochaine.
C'est les barrages de l'Europa League. Donc, tu as encore une cascade vers la Conference League dans le pire des cas. Mais il faut, comme on l'a déjà dit aussi, il n'y a pas de Champions League direct. Donc, l'Antwerp jouera le dernier tour des barrages de Champions League en fin août.
C'est fin août, voilà. C'est
Genk
déjà
jouera
ça.
Le deuxième tour préliminaire déjà le 25 juillet. Ouais,
ça, c'est terrible.
Et c'est la même semaine que Gand et Bruges joueront également la Conference League.
Ouais, ça, c'est vrai qu'il y a un problème. Enfin, un problème. Il faut bien caser tous les matchs, mais le fait de ne pas être à la bonne place fait que vous pouvez mettre en... hypothéquer peut-être même fameusement un début de saison, le début de la saison d'après, parce que si vous commencez trop tôt en pleine préparation que vous vous ramassez, bah, c'est pas terrible. Donc voilà, le championnat est remporté par l'Antwerp 66 ans après.
Quand même que le champion, c'est celui qui a joué le moins de matchs en définitive, puisque c'est eux qui ont été sortis les premiers des Coupes d'Europe par rapport à leurs deux adversaires.
Ah, techniquement, je vais te contredire.
Ah bon?
C'est Genk qui a joué le moins de matchs cette année parce que l'Antwerp a joué la finale de Coupe de Belgique.
Oui, ok, mais je veux dire, en termes de matchs à pression...
Et donc, ils ont réalisé le doublé qui n'avait pas été réalisé, je crois, depuis 37 ans, mais ils ont surtout gagné le titre pour la première fois depuis... on avait
66 ans pour l'Antwerp. Et le dernier doublé, c'était en 96, c'était 96. Le club de Bruges.
Donc 37 ans.
C'était alors, qui
27 ans, pardon.
C'était qui
Le club de Bruges.
Qui ça
Avec Lorenzo Stalens encore.
Ah, ouais. C'est une équipe qui sera peut-être en Europe.
C'est une sorte de passation de pouvoir, donc un peu entre les deux.
Je pense pas. Il y a beaucoup de gens à Bruges qui détestent l'Antwerp, et n'ayons pas peur des mots, c'est le cas. Mais c'est pas Bruges depuis 2015 est la meilleure équipe de Belgique. Je vois Didier qui me regarde et qui sourit. Bruges est la meilleure équipe de Belgique depuis 2015. C'est pas parce que l'Antwerp réalise un doublé qu'en une fois ça va changer. Après, il y a des points de vue structurels, il faudra voir les
non,
prochaines
mais
années.
La
est-ce que l'Antwerp aura son stade 100% fini? Est-ce que Gessens aura envie d'investir? Est-ce que pour lui c'est un accomplissement? Parce que faire mieux qu'un doublé, tu ne feras pas. Hein.
Non, mais en tout cas, ils posent leur carte de visite comme étant maintenant devenue une puissance qui veut compter dans la durée, dans les grands du football belge. Et quoi de mieux que de faire,
soyons contents. Et je ne demande pas mieux que le Standard, Genk et même Anderlecht reviennent. Parce que tu as besoin de cette concurrence en Belgique, qu'elle soit saine et qu'elle soit forte pour justement performer encore mieux dans les années à venir.
Entièrement d'accord avec toi. Je vais te dire, moi, je trouve que les trois pour moi, auraient été des trois beaux champions. Parce que Genk, c'était la plus belle équipe de la phase régulière. Ouais. Vraiment. C'était une équipe vraiment plaisante à voir jouer, très agréable. L'Antwerp était clairement l'équipe des playoffs. C'est eux qui ont... Ils ont eu leur pic de forme au vraiment bon moment.
Pic de chance aussi, il faut
leur pic de chance, oui.
Comme tout le monde. Ah oui, bien sûr. Comme Bruges l'an passé.
Et l'Union était certainement l'équipe qui était la deuxième à la fois dans la saison régulière et à la fois dans les playoffs, qui était donc certainement entre les deux et méritait aussi le titre. Et donc, c'était trois belles équipes qui méritaient le titre. Il n'y a aucune des trois, on peut dire, n'était pas méritante pour
obtenir. Par rapport aux moyens propres de chacun, je trouve que l'Union est la plus méritante. Ah, parce que l'Union, n'est pas le noyau de Genk ou le noyau de l'Antwerp.
Donc, au final de ce championnat, l'Antwerp champion, Genk deuxième, l'Union troisième. Bruges 4e et la Gantoise 5e. Voilà les équipes qui joueront donc la Coupe d'Europe à des stades différents la saison prochaine. Non, t'as pas de question parce qu'on va devoir passer.
Toi, c'est pour si.
Mais on verra plus tard parce que maintenant on va passer avec Alex. Une question. On va parler un peu business peut-être un peu.
On parle de business depuis 49 minutes.
Alors Alex, de quoi on parle dans cette minute Sportimize aujourd'hui ?
L'été approche, on va couper la musique effectivement. L'été approche, on va aller dans la Ville Rose. Donc on sait Toulouse a gagné la finale de Coupe de France. Et du côté de Toulouse qui est remonté pas si longtemps en Ligue 1, on n'a pas pour habitude de vendre beaucoup de maillots. Donc on en vend entre 3000 et 5000 par saison. Sauf que cette année, avec Kraft, qui est d'ailleurs le même équipementier que la Gantoise, ils ont vendu 25 000 maillots.
Étonnant.
La victoire en Coupe de France n'est pas étrangère à ça. Et Toulouse s'est dit, on va faire une petite blague à nos supporters le 1er avril. Et on va annoncer, comme dans la Ville Rose, il y a le stade toulousain en rugby qui est très populaire. Toulouse FC voulait rendre hommage pour le 1er avril au Stade Toulousain et a sorti un maillot en rouge avec quelques traits noirs, qui était d'ailleurs très joli et très sympa. Sauf qu'ils ont été pris à leur propre jeu et les supporters ont réclamé ce maillot. Ah. Il y avait déjà 3 jeux de maillots existants du côté du TFC. Là, il y en a un 4e. Et donc, finalement, ils avaient interagi par les réseaux sociaux sur Twitter. Si ils arrivaient à plus de 3100 retweets, le maillot sera produit à 3100 exemplaires. 3100, pourquoi ? 31, la Haute-Garonne, département où Toulouse est situé. Et finalement, ils ont eu plus que 3000 retweets. Et donc, le TFC a lancé en production, il y a 2 semaines, ces maillots qui sont en vente, d'ailleurs, sur le site du club. Donc, pour les amateurs de maillots exclusifs foot rugby, c'est le moment, j'ai envie de dire.
C'est très intéressant, et d'autant que Toulouse, c'est un petit peu à l'image de ce qui peut se passer dans des villes américaines. C'est-à-dire que la concurrence, elle ne se fait pas entre deux équipes d'un même sport, mais entre deux équipes de sports différents. Comme aux États-Unis, il peut y avoir vous n'avez pas l'argent pour acheter tous les équipements de toutes les équipes. Et alors, si vous êtes supporter des Lakers ou de LA Rams ou je ne sais quoi, il y a une concurrence. Et bien là, c'est vrai que c'est entre le rugby et le football. Et c'est vrai que c'est une ville de rugby, Toulouse. Et c'est bien vu de s'appuyer sur la...
Il y a moyen de faire des chouettes synergies aussi. Ouais. Même si tu parles de LA, il faut savoir qu'il y a 2 franchises dans chaque sport officiel. Toulouse, on se retrouve avec du foot, du rugby, mais c'est très chouette de voir une ville justement vivre derrière ses clubs.
Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée de prendre ses couleurs, parce que Toulouse a été aussi souvent en France, on l'appelle Toulouse, on l'écrit pas forcément comme la ville de Toulouse, mais c'est quand même une équipe qui perd très souvent. Et donc pourquoi pas surfer sur la vague des rugbymen en adoptant d'autres couleurs.
Ils peuvent même s'allier avec Anderlecht justement, c'est les mêmes couleurs.
C'est les mêmes couleurs.
Et c'est Toulouse aussi.
On leur souhaite un partenaire un peu plus costaud.
Merci pour cette minute Sportimize, Alex.
Je peux poser ma question ?
Juste après. Didier, on t'écoute pour ta question.
Bah, vous pouvez y répondre tous les 3, mais c'est une question de ressenti. Est-ce que les supporters de Bruges vont pardonner à leur équipe d'avoir fait que l'Antwerp a été champion ? Ceux qui étaient au Stade Marais, en tout cas.
Je crois que oui, parce qu'on voit quand même qu'ils ont célébré à la fin, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est dans la victoire est dans leur ADN. Et donc, à un moment, on sentait qu'ils étaient plus contents au départ pour que l'Antwerp soit pas champion. Mais dans le fond, dès qu'il y a eu le goût de la victoire, ils s'en sont délectés très vite.
D'accord. Moi, je n'étais pas, donc c'était une vraie question, en fait.
Moi, j'ai vu des supporters de Bruges sauter de joie lors de l'égalisation et lors du 1-2. Donc oui, tu as envie, à chaque fois que ton équipe gagne, tu as envie en tant que joueur de gagner.
Bien sûr.
Et comme j'ai dit en début d'émission, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Ni à l'Antwerp, que tout le monde voit en une fois se développer comme étant le Manchester United en Belgique. Non, il n'y a rien qui est acquis. Et Bruges aura peut-être besoin de l'Antwerp ou de Genk dans les prochaines années pour prendre un titre ou à autre chose. Donc moi, c'est fair play, c'est normal.
Ah, il nous reste plus beaucoup de temps. Et je voudrais qu'on parle de la Coupe du Monde des U20 qui se déroule actuellement en Argentine et où une équipe qu'on suit un petit peu plus particulièrement, l'équipe d'Israël, ne cesse d'enchaîner les exploits puisque après les 8e de finale gagnés face aux champions d'Asie des moins de 20 ans, l'Ouzbékistan, se dressait devant eux le Brésil. 19 participations au Mondialito, 5 victoires face à des Israéliens qui participent pour la première fois. Et les Israéliens l'ont emporté, 3-2. Ils l'ont emporté, notamment grâce, encore une fois, à un but. Là, c'était carrément dans la prolongation. Un but de Dor Tourgaman qui a été décrit même comme brésilien. Il a fait 2 feintes, il a évité un tacle, il a mis une frappe. Et il a donné la victoire aux Israéliens, 3-2. Les Brésiliens ont concédé à la fin du match que les Israéliens avaient mieux joué qu'eux. Donc, c'est vraiment pas usurpé. L'équipe est montée en puissance depuis le début de la compétition, puisqu'ils ont démarré sur une défaite face à la Colombie. Ils ont ensuite galvaudé une avance au score face au Sénégal pour faire un partout. Et ils devaient gagner le dernier match contre le Japon, qu'ils ont gagné dans les arrêts de jeu. Et puis pareil, l'Ouzbékistan, ils les ont usés.
Champion d'Asie à la base.
Ils les ont usés, ils les ont eus dans les dernières minutes. Et là, le Brésil, 3-2. Ils ont loupé, même chose rare, deux pénaltys. Ils ont loupé 2 pénaltys, figurez-vous. Première fois, il y a une frappe pour une main, le gardien l'arrête, puis la balle revient, l'attaquant se précipite pour essayer de la frapper, puis le gardien l'accroche à ce moment-là, donc l'arbitre siffle un deuxième pénalty, et ils l'ont loupé cette fois-ci. Et ils sont qualifiés, ils jouent contre l'Uruguay.
Est-ce que la réponse n'est pas dans ta question, mon cher Sam ? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est leur première participation qu'ils vont aussi loin ? C'est-à-dire que les gens ne les connaissent pas bien et,
parfois, j'ai l'impression que c'est, personne ne connaît vraiment bien personne dans cette compétition. D'accord. Parce que de ce que j'ai vu, les quatre, il y a des grandes stars, mais les équipes en elles-mêmes, elles ne sont pas suffisamment... ça ne s'appuie pas sur un jeu suffisamment fluide, peut-être. Mm-hmm. Il n'y a aucun des quatre demi-finalistes, donc d'un côté Uruguay-Israël et de l'autre côté Corée du Sud-Italie, qui a fini première de son groupe. Donc ils ont tous été deuxième, voire troisième l'Uruguay. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi et peut-être que...
Est-ce que c'est trop optimiste d'envisager une génération dorée pour Israël ?
Ils ont des joueurs qui vont monter, qui forcément vont sûrement aller à gauche à droite. On a vu Oscar Glour, qui est le maître à jouer d'ailleurs de cette équipe, qui n'est pas disponible puisqu'il a été gardé par Salzbourg. Et il a été transféré à Salzbourg cet hiver. Et surtout, il y a l'Euro à la fin du mois où Israël joue et où il fera partie de l'équipe. Donc, la classe d'âge encore au-dessus.
Non, Steve, c'est pas impossible. Et on l'a vu en Belgique, que c'est ce qui est arrivé avec l'équipe qui a participé au JO 2008. Et on le voit, il y a toutes ces équipes, la Roumanie, je pense, dans les années 90, la Bulgarie également, l'Argentine. Toutes ces équipes.
Non, mais oui, il y a toujours...
Ils jouent ensemble depuis un très jeune âge dans des équipes d'âge. Et ils réussissent à faire un exploit. Et ça, c'est ça la magie justement de ce sport. Et on y arrive. La Slovénie aussi, même en 2000, t'as des équipes formidables. Et espérons que l'Israël puisse le faire aussi. Et d'ailleurs, signalons, il y a Dor Tourgeman,
voilà,
qui est sur les tablettes de Bruges.
Eh bien, on le verra peut-être l'année prochaine.
Le nouveau René Rosenthal ici est arrivé.
Eh bien, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Alex, merci Steve, merci Didier.
Avec plaisir.
D'avoir été là pour cette dernière journée de championnat. On va se retrouver la semaine prochaine, lundi prochain. On aura à parler forcément des finales de Coupe d'Europe, notamment de Kevin, de Manchester City, Kevin. Et puis, on vous donnera à ce moment-là aussi des nouvelles de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se sera terminée, clôturée dimanche prochain. Cool. En attendant, très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine de football et à lundi prochain.
Ciao, ciao.
Ça revient, centre de la sur 6.